j'ai trouvé.
Oh, je déteste ces bestioles et leur croassement continuel.
CO2, mon amour.
Avez-vous vu beaucoup de grenouilles, Monsieur Smith?
Quelques-unes, monsieur.
Plus qu'il ne vous semblerait normal.
Oui, je le pense. Ça multiplie beaucoup cette année.
Denis Chessot.
Vous dites cela comme un expert en écologie, c'est bien ce que vous êtes.
D'une certaine façon, oui, monsieur.
Sur France Inter.
Comment pourrait-on se débarrasser de ces grenouilles tout de suite?
J'ai suggéré de verser de l'essence sur l'eau pour les asphyxier. Ça pourrait marcher, n'est-ce pas, monsieur?
Oui, mais vous détruiriez beaucoup d'autres choses.
Intéressant, non?
Bienvenue sur CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote mais qui coasse, vous l'avez compris, à vos oreilles. À la technique aujourd'hui, Nicolas Delmas. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Alors une bonne nouvelle, vous n'attraperez rien en écoutant France Inter, c'est promis, sauf, souhaitons-le, un moment de nature positive, donc de bien-être. Et dans nos mini-actualités, il y a une douzaine de jours, pour le départ de la préfète Cécile Bigot des Caisers, eh bien le président du département des Hautes-Alpes, Jean-Marie Bernard, lui fait un cadeau. Alors vous allez me dire, c'était des tourtons du Champsaur, du miel de mon copain berger Pascal Labbé, un maillot de coureuse pour grimper l'Isoard à vélo, du Génépi du Kera. Eh ben c'est perdu. Non, c'était une queue de loup. Un clin d'œil, selon les termes du facétieux élu. Ah bah oui, ça on peut plus rire entre destructeurs de la nature. Alors non, ce n'est pas de mauvais goût, c'est juste quelques éleveurs et quelques élus d'un département qui voudraient crucifier Jean-Michel Bertrand et son film « Marche avec les loups ». Alors c'est sûrement une pratique culturelle qui faisait plaisir au Moyen-Âge, où on flinguait, piégeait du isengrin au kilomètre, on touchait des primes, autre temps, autre mœurs, qui sommes-nous pour juger? Mais au XXIe siècle, bon, qu'est-ce que vous me dites là? Espèces protégées, crise de la biodiversité? Ben, vous parlez de quoi? On est entre gens sérieux. Notre problème, c'est les canons à neige et les conséquentes subventions à l'élevage. La sénatrice locale, Patricia Moret-Richaud, qui est une femme tout à fait bosseuse et présidente du groupe Pastoralisme, souhaite le développement de mesures alternatives aux tirs de prélèvement pour réapprendre aux loups à se méfier et à se tenir à l'écart des hommes. Et là, elle a raison. Et au passage quand même, raboter la convention de Berne qui protège le canidé pour le cartonner peut-être un petit peu plus. Bon, ce qui ne changera rien, comme l'a très bien expliqué à ce micro le 12 janvier Jean-Michel Bertrand sur la dynamique de l'espèce. Réécoutez-le en podcast parce que là, c'est vraiment limpide. Alors, il faut bien reconnaître, le dit canidé n'y met pas du sien pour se faire accepter en trucidant joyeusement le fruit du travail des éleveurs. Et on comprend très bien le courroux, l'accablement de certains face à ce prédateur, ça oui, mais pas la haine. Alors au-delà de la question éthique, la question de la légalité se pose. Bah oui, le loup c'est une espèce quand même en théorie protégée, et donc il est illégal de transporter sa dépouille ou une partie sans autorisation, et a fortiori d'en disposer pour faire un cadeau avec ou sans ruban autour. Que fera le procureur de la République de Gap? Est-ce qu'il va classer l'affaire sans suite? On a les élus progressistes qu'on mérite, mais vive ce département où mon micro sera toujours éclairé par le bleu 05 et plein de belles âmes qui y vivent. Et alors là, une excellente nouvelle, dites donc, c'est un peu plus au sud, ça fait suite au reportage des Calanques de la semaine dernière. Quatre braconniers qui pêchaient illégalement entre 2013 et 2017 sont condamnés à verser plus de 350 000 euros de préjudice au parc national des Calanques. Oh bah de quoi, trois fois rien, 4 tonnes et demie de poissons et de poulpes et en plus 16 000 douzaines d'oursins. Ouais, alors enfin en France, une vraie prise de cette envergure. Les gardes du parc, la gendarmerie, le procureur, le tribunal correctionnel, nous le disions, sont très solides, déterminés sur le sujet et tant mieux. Et cela fera réfléchir les apprentis braconniers. Alors ce n'est pas du tout de l'écologie punitive, non. C'est une réplique absolument légale à la crapulerie et aux gens qui pillent la biodiversité. Les familles éplorées des oursins et des poissons et des poules qui étaient revendus aux restaurateurs parfaitement au courant remercient l'État et ses agents d'appliquer le droit. Et alors au menu, on n'a pas d'oursin, on n'a pas de poulpe, et pour remplir notre page nature hebdomadaire, nous convoquerons donc les crapauds, les grenouilles qui veulent se reproduire au micro de CO2 Mon Amour, et avec la voix de Colette, femme de la Puisaye, pour lancer notre batracienne attitude.
C'est un fort, beau, confortable et énorme crapaud. Je vais gratter la tête. Les crapauds aiment qu'on leur gratte la tête. C'est une chose, c'est un détail qui a son importance, mais que l'être humain ignore vraiment trop souvent.
Bien, je suis content que vous nous révéliez ce détail.
T'as fait le tour de la ville et tout le tour de la planète.
T'as mis le pied dans des îles où t'étais analphabète. T'en as vu passer des styles de filles et de garçons. Et t'en as croisé des bribes de vie et d'horizon. Mais un beau voyage, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé d'eux et de leur vie. C'est elle que t'as choisie. Tu zigues, tu zagues au milieu des vagues d'humains de maison. Tu traînes ta trogne au gré des horaires et des saisons. Après quatre vols, c'est pas de bol. Chez elle, c'est la nuit, c'est d'un ennui. T'es seul au bout du planisphère et seul au bout du fil et de ta vie. Tous ces beaux voyages, c'est la prison. Quand t'as quelqu'un qui t'aime à la maison. Et y'a des humains de toutes parts, des grands, des tout petits. Des foules de visages et de vies qui s'activent jour et nuit. Et de ces humains de toutes parts qui sont passés devant tes yeux, qui t'ont parlé d'eux et de leur vie. C'est elle que t'as choisie.
La frénésie des humains sur France Inter, interprété par Voyou, un très bon trompettiste.
Dites-moi, comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille?
CO2, mon amour.
Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre.
Denis Chessou.
Et puis après, avec l'humidité, il gonfle.
Sur France Inter.
Ah oui.
Bonjour, bonjour.
Voilà.
Oui, la
cueillette de ce jour.
Alors, ça, c'est un petit mâle.
Ben oui.
Qui a ces deux petites verrues noires qu'on voit sur les deux doigts. Ici. Oui. Et c'est ça qui va être en contact avec la poitrine de la femelle.
Bon, très important.
La femelle, elle est beaucoup plus grosse. Et puis, ça, c'est une grenouille. Grenouille brune, parce qu'on voit qu'elle est de couleur brune. Mmh. Elle a un museau très fin. C'est une grenouille agile, c'est une femelle qui a des œufs. On voit que le ventre
rempli,
est bien rempli. Voilà. Alors, il passe l'hiver dans la prairie qui est ici, dans des galeries de rongeurs, sous l'herbe, ou dans la forêt, il s'enterre sous les feuilles,
ouais.
Et il passe l'hiver complètement en léthargie, en quelque sorte.
D'accord.
Et alors, au printemps, quand il fait plus de 8 degrés à 20 heures, qu'il y a un peu de pluie, alors ça veut dire à peu près mi-février, fin mars,
oui.
Ils descendent pour aller se reproduire dans un point d'eau.
Donc 8 degrés, 20 heures, c'est les conditions, je dirais, optimales.
Voilà, et malheureusement, c'est exactement l'heure où tous les gens reviennent du boulot et donc passent sur la route qu'on voit ici à côté.
Et même avant 20h, hein. Alors joyeux crapauds, joyeuses grenouilles ont décidé de se reproduire comme tous les ans à peu près à la même époque. Alors ça peut se passer simplement, sans casse, ou bien on l'a compris, ça peut relever du parcours du combattant s'il y a une route. Alors on rappelle que quand même ces animaux sont déjà malmenés, hein. Leurs milieux humides sont drainés, asséchés, asphaltés, pollués par l'agriculture intensive et aussi nos pollutions. Le réchauffement climatique peut les empêcher de vraiment hiverner aussi, donc de les affaiblir. Alors nous, on va se lancer. On va se lancer avec les bottes et les seaux. Tout ça, c'est obligatoire. Je rappelle quand même en préambule que la grenouille n'a jamais été la femelle du crapaud. Hein, que le crapaud ressemble un peu, si vous voulez, à un adolescent affolé par ses hormones. Donc, bah, comme lui, il a plein de boutons. Hein, ce sont des petites verrues. Mais la différence, c'est qu'il n'a pas un écran vissé à ses oreilles. Où allons-nous ? On va dans l'Isère, sur une route départementale non loin de Saint-Laurent-du-Pont, sous l'œil enneigé du massif de la Chartreuse. L'association Le Pivert à Voiron compte aujourd'hui 845 membres, c'est énorme. Nous sommes donc levés tôt pour vous et je vous convie à ce moment de partage intergénérationnel pour une crapaud attitude avec Jean-François Noblet et son équipe. Alors parlons de la bête maintenant, Jean-François. Ouais. Donc nous avons notre mâle et nous avons notre femelle. Et quand on voit la femelle, on se dit c'est quand même un beau morceau.
Ah oui, ça fait un beau beefsteak.
Hein. Oula,
oui. Donc c'est 300 grammes et la femelle, elle fait le double du mâle. Alors comment ça se passe en fait, cette promenade amoureuse en quelque sorte?
Oui.
La femelle descend et tout le long de son chemin, il y a des mâles qui font du stop. Alors ils sont là. Le soir, tombée de nuit, ils attendent, ils regardent, ils font un petit cri. Et quand il y a une femelle qui arrive, ils lui sautent dessus, ils montent sur elle, avec deux petites verrues qu'ils ont sur les pattes antérieures, ils vont coincer la poitrine de la femelle.
Oui, donc sur des zones érogènes.
Voilà, et ça va faire le premier stimulus que la femelle va avoir. Pour aller se reproduire.
Donc elle se dit, c'est bon, j'ai un mâle là dans mon sac à dos.
Voilà.
Et donc je vais pouvoir après rejoindre ma mare.
Voilà. Ça, et alors, ça, comme elle est sympa, c'est elle qui porte le mâle.
Bah oui.
Et alors, si jamais il y a plusieurs mâles qui sont dans le secteur, ils vont essayer de monter sur la femelle qui a déjà son bagage. Et donc il peut y avoir des bagarres sur la femelle avec plusieurs mâles qui essayent de monter et d'enfourcher la femelle. Mais il n'y a pas de pénétration,
hein.
C'est simplement le transport. Le premier problème, c'est un problème de sécurité routière. Pourquoi ? Parce qu'une femelle de crapaud commun qui se fait écraser, c'est 300 grammes de gélatineux qui sont, répandus sur le sol. Et quand vous avez plusieurs centaines de crapauds qui sont écrasés au même endroit, même à pied, en marchant, vous dérapez. Et puis surtout, les cadavres attirent des renards, des blaireaux, des sangliers qui viennent manger. Et en pleine nuit, se prendre un sanglier dans le pare-brise, c'est pas terrible.
Donc votre travail avec l'association Pivert, donc vous êtes vous sur Voiron, avec quand même 850 membres. Une de vos actions écologiques, ici ouais. Sur le terrain.
Voilà.
Donc ça va être quoi? De les aider à traverser? Ça va être...
ouais, exactement. Donc le but, c'est de faire construire par le conseil départemental, sur ouais. cette route départementale, des passages sous la voirie qui permettraient à ces amphibiens d'aller et de revenir après passer l'hiver suivant ouais. Dans la forêt.
Donc les fameux crapauducs.
Voilà. Alors, on ne dit pas crapauduc. Ah, pourquoi? Parce que il y a toujours...
On va ostraciser quelqu'un, là, c'est quoi?
Oui, ben voilà. Il y a toujours un vieux chasseur qui va dire « Ouais, qu'est-ce que c'est ces écolos qui dépensent des millions pour faire passer des crapauds oui. alors qu'il y a des personnes âgées qui n'ont pas de retraite, etc. »
Vous faites bien de chasseur.
Bon, il faut parler plutôt de passage à petite faune. Pourquoi? Parce que dans ces aménagements, sous les voiries, il y a 10 fois plus d'insectes, de reptiles, de lézards, de lombrics ouais. qui passent, voire de petits mammifères, comme les belettes, les lapins, etc., qui passent dans ces passages au terrain, que d'amphibiens. Parce que les amphibiens, eux, ils utilisent ça pendant la période de reproduction pour descendre, et pour remonter, bah, ils remontent tranquillement pendant toute la période estivale.
Là, oui, parce qu'une fois la reproduction faite, ils font le chemin en sens inverse.
Ah ben bien sûr.
Voilà.
Alors, mais on s'en fout un peu qu'ils se fassent écraser à ce moment-là. Enfin bon, non, on s'en fout pas, mais c'est moins grave parce que il y a eu la reproduction.
Ouais.
Donc on a sauvé l'espèce.
D'accord.
Et sauver des crapauds et des amphibiens, c'est vachement intéressant, notamment pour les jardiniers, pour les agriculteurs.
On rappelle quand même que le crapaud va quand même boulotter. Combien de limaces il peut faire?
Ah ben c'est 300 grammes de limaces chaque nuit. Hein.
Ah oui.
Donc c'est quand même assez considérable. Et en plus, ces amphibiens, c'est des proies pour toute une série d'animaux, aussi bien le putois, les hérons, les canards, sous forme d'œufs ou sous forme de larves.
Donc dans la chaîne alimentaire,
ils ont un rôle extrêmement important. Ouais. C'est le début, en quelque sorte. Alors, si on veut avoir un écosystème riche, une biodiversité préservée, eh ben, il faut absolument sauver ces amphibiens.
Alors là, l'idée, ça va être quoi, effectivement, de faire le trou pour qu'on puisse les récupérer? Ça va être quoi?
Alors, le principe de base, c'est qu'on va empêcher les amphibiens, avec des filets qu'on enterre, de traverser la voirie. On va les canaliser, ils vont passer à gauche ou à droite, et puis, de temps en temps, tous les 15 mètres, au même endroit, il y a un seau enterré. Alors, ils vont tomber dans le seau.
Et c'est là qu'on les récupère.
C'est là que tous les matins, à 8h, avec plein de bénévoles, vous voyez, là, on a un gros paquet. Là.
Parce que bien, c'est qu'il y a vraiment toute la génération, il y a les enfants aussi.
Alors, bon, aujourd'hui, donc, il a fait froid cette nuit. Il y a eu un petit peu de vent, etc. C'est ce qui explique qu'on a peu d'animaux. Hier, on avait 46 individus qui ont été... Alors voilà, on le met dans le seau et on va les amener à l'étang qu'on voit ici.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous les faites traverser.
Voilà.
Cette fois-ci,
dans le seau. On les fait traverser.
Comme ça, on est sûr que la reproduction pourra avoir lieu. Il y a des prémices
Non, c'est une reproduction sans pénétration, c'est-à-dire que la femelle porte son mâle. Elle arrive à l'eau et... Le contact avec l'eau, c'est le deuxième stimulus.
Donc là, elle lâche chez eux.
Elle rentre dans l'eau, avec le mâle sur elle, quelquefois même plusieurs mâles, et puis elle va lâcher ses œufs. C'est des filaments qui vont s'accrocher sur des petites branches, sur des feuilles, à l'intérieur de l'eau.
Et le rôle du mec
Lui, il émet le sperme, et il arrose, et il ensemence les œufs, il les féconde comme ça.
Et après, on repart chacun chez soi, ou bien on...
Alors après, la femelle, dès qu'elle a fini de pondre, elle a une horreur de l'eau. Elle repart. Alors elle reste en général près du plan d'eau, mais elle peut remonter dans sa zone d'hivernage. Quelquefois, des crapauds communs peuvent faire jusqu'à 5 km pour rejoindre un point d'eau dans lequel ils sont nés, parce qu'ils ont la mémoire des endroits, et ils peuvent rester un petit moment pendant l'été sur le secteur, voire remonter exactement là où ils ont passé l'hiver.
Alors, dites donc, là, tous les deux, là, vous êtes en train de regarder les fameux crapauds, mais sinon, vous en avez déjà relevé, tous les deux, des crapauds, comme ça ?
Je l'ai vu dans la forêt.
Quand tu les attrapes, Elliot, ou les crapauds?
En fait, on met un filet d'abord, après on met des seaux, et puis dans la nuit, il y a des grenouilles, elles vont, et il y a une route après, du coup, elles risquent de se faire écraser, du coup, elles tombent dans des seaux, on prend un seau, et puis en étant à côté, du coup, on traverse la route et on prend les grenouilles dans un autre seau et on les amène à l'étang.
Non, mais c'est sympa de te promener comme ça, et puis de sauver quand même des crapauds et des grenouilles. Hein.
Oui.
Alors, que l'on comprenne bien, donc on rappelle que ce filet va donc empêcher donc ces crapauds de descendre.
De traverser la route.
C'est 50 cm de hauteur à peu près.
Oui, Et puis c'est enterré, il faut que ça soit enterré parce qu'ils peuvent passer par-dessous. Et puis il faut qu'ils aient une certaine orientation. Pourquoi? Parce que quand, à la fin de la période de reproduction, c'est-à-dire fin mars, il y a déjà des amphibiens qui remontent. Si le filet est un petit peu penché vers le sens de la montée, ça leur permet de grimper sur le filet, de passer de l'autre côté. Donc, préserver la biodiversité, c'est préserver les amphibiens. Le début des chaînes alimentaires, c'est empêcher les accidents sur la route. Et puis, c'est vachement sympa de savoir qu'il y a autour de nous plein de petits animaux super. Regardez la couleur de ses yeux, là, c'est magnifique. Et quand on regarde de près, tous ces amphibiens, ils ont des yeux sympas, quoi. Alors il fait son petit cri, voilà, c'est le mâle. Là.
Vous pouvez lui appuyer dessus pour qu'il crie.
Toute la nuit, quand il attend la femelle, il est là, debout, il écoute, et puis il fait ce petit cri, et la femelle qui passe, eh ben, c'est son moyen de transport.
Et on va donc poursuivre le voyage, oui, mais auparavant, ah ben, je ne sais pas si il y a le coas ou... non, je ne sais pas, bon, on va voir. En tout cas, elle ne boit pas, non, ça... Chante, mais oui, c'est Ayo.
Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love, and so do you. Hey Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew. Let's just say her name was Rosie. rosy blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir. And how I wish that Rosie was still here. And I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad.
Oh, c'est très joli ça, c'était Ayo qui interprétait Rosie Blue, merci à Thierry Dupin. Et dans cette émission qui ne veut pas se faire aussi grosse que le bœuf sur France Inter, dans CO2 Mon Amour, eh bien nous allons laisser le verbe croasser au corps vidé, et on va continuer nous de croasser tranquillement. Alors regardez, il a un iris doré, une grande pupille noire horizontale, c'est notre crapaud, on poursuit le voyage avec l'association Le Pivert et Jean-François Noblet.
En fait, on vient de découvrir que les crapauds communs, autrefois, on pensait que c'était une seule espèce. Or, en France, il y a deux espèces. Il y a des analyses génétiques qui ont été faites. Et alors, on voit, notamment par l'observation de l'œil, qu'il peut y avoir des différences entre le crapaud commun et le crapaud épineux. Maintenant, on a deux espèces de crapauds.
Crapaud épineux, c'est le Buffo spinosus.
Voilà, qui se ressemblent beaucoup. Et il faut être très fort pour savoir distinguer les deux, quoi. On peut le faire notamment avec la forme de la tête, c'est-à-dire on prend l'angle sur les deux glandes parathyroïdes et puis on regarde si c'est resserré ou plus large, et puis il y a un petit élément à la patte inférieure, une petite verrue qu'il faut regarder.
Qu'est-ce qu'on appelle les glandes parathyroïdes ?
Eh bien, c'est des glandes qui sont sur le dessus de la tête et qui émettent un petit peu de venin et qui ont une signification qui n'est pas très connue aujourd'hui. On ne sait pas exactement à quoi ça sert.
Le venin, donc système de défense, c'est ça, pour les prédateurs ?
Probable. D'ailleurs, un putois qui est spécialisé pour manger des crapauds et des grenouilles, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il les dépiote et il enlève la peau pour ne pas être incommodé par justement le venin.
Il retire le pyjama et après il mange l'intérieur, quoi.
Voilà. Ouais, c'est ça. Alors, il y a des putois. Quand on a fait ce genre d'équipement sous les voiries, on en a fait 6 ou 7 en Isère. On est parmi les premiers départements français à avoir fait ce genre d'aménagement. Ça marche très très bien. On a sauvé, par exemple, à la réserve naturelle du Grand Lens, on a sauvé 18 000 amphibiens de 9 espèces différentes. Et depuis qu'on a fait ça, la réserve, elle a repris un maximum de biodiversité. Il y a beaucoup plus de canards, beaucoup plus de poissons. Donc les chasseurs, les pêcheurs sont ravis parce qu'on a restauré un écosystème.
Ah, on a du pot, ça se lève là. Ce matin, vraiment tôt, ça vasait comme il faut.
Alors évidemment, avec le réchauffement climatique, la période de reproduction se décale. Ouais. De plus en plus, elle commence mi-février, alors qu'avant c'était début mars, quoi. Bon, on les emmène ?
Donc c'est nous qui allons traverser. Ce serait quand même ballot de se faire écraser. Ça circule pas mal quand même. Oui, attendez, on va laisser passer les. Voilà. Ah, là Jean-François, un très joli toboggan là qui descend un talus sur la route.
Ouais, bah, c'est le passage du blaireau. Donc quand on fera les passages sous la voirie pour les amphibiens, eh bien les blaireaux pourront traverser sans se faire écraser. Puis là, on est dans un virage, c'est extrêmement dangereux pour la sécurité routière.
Et c'est leur passage,
voilà.
Très clairement.
Oui, hein. Bah, viens voir.
Ah ben bah, ça y est, on voit les traces, sans aucun problème.
Avec les griffes, là.
Ouais.
Et ça, c'est un renard.
Et là, maintenant, avec Elliot qui nous dirige, direction Zemar. Donc c'est l'acte 2 de la reproduction.
Ah, il y a un bruyant zizi qu'on entend là.
Ah oui.
Tchouk tchouk. Voilà. Ti 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 ti. Ça c'est un bruyant zizi. C'est un superbe oiseau qui est coloré, qui a un masque avec des rayures noires et jaunes, là c'est magnifique.
Allez, on y va ?
Allez.
Oui !
Alors là, qu'est-ce qu'on va faire, Elliot ? Là, tu as le seau avec les crapauds, et maintenant, ça va être quoi ?
On va aller les mettre dans l'eau.
On les met dans l'eau. Ça y est, on s'approche donc de l'étang. Jolie surface.
Tiens, on va passer là-bas, ça sera plus simple pour toi, Elliot.
Sur une petite île.
Trois colverts et deux foulques.
Allez, Elliot. Cette fois-ci au bord de l'étang, avec le seau.
Alors, tu les prends, tu les remets dans l'eau.
Voilà. À la main. Et ça y est. Elle est partie. Salut crapaud. Allez, bonne suite.
Voilà, mission accomplie.
La grenouille, elle est partie dans les profondeurs.
Et elle se transforme pas en princesse, la grenouille ?
Non.
Alors, ces deux platanes qui sont couchés ici, en fait, ils étaient dans la cour d'une ancienne école à Courbevoie. Or, la mairie a décidé de démolir cette ancienne école, qu'on ne pouvait pas rénover, pour faire des logements sociaux. Donc, ces deux platanes, qui sont creux, on voit qu'il y a des tas de trous à l'intérieur.
Qui sont de nouveau des logements sociaux.
Alors, on a demandé qu'ils soient couchés, élagués, transportés ici, et ils vont être replantés pour faire des nichoirs naturels. Alors évidemment, ils ne vont pas reprendre, parce qu'ils ont été coupés, ils vont mourir, mais tous les troncs creux vont servir de nichoir. On va faire pousser du lierre, ou de la glycine, ou quelque chose dessus. Ça va faire finalement un élément de patrimoine. Un petit peu plus loin sur la presqu'île ici, on va construire une cabane observatoire. Pourquoi ? Parce que ça, c'était un ancien lagunage qui servait à l'épuration de l'eau de la commune. Mais le nombre d'habitants augmentant, ce lagunage n'était plus suffisamment efficace. Donc, il a été court-circuité. Maintenant, l'eau des égouts part à une station d'épuration. Et on est dans un espace naturel sensible ici. Et donc, la cabane d'observation servira à montrer toute la faune qui vient dans ce plan d'eau.
Alors dans ce genre de cas, qu'est-ce qu'on fait ? On va voir le maire, on discute.
Ah oui, bien sûr. Alors nous, quand on a su que ces platanes allaient être coupées, on a dit, bon, il n'y a pas 36 solutions. C'est un site de repos et de reproduction pour des espèces protégées. Il y a des oiseaux qui viennent dedans. Une mésange, c'est une espèce protégée. Elle vient dedans. Donc si on veut vous embêter, on vous empêche de couper ces arbres. Parce que c'est la loi. La loi protège les sites de repos et de reproduction des espèces. Bon. Sachant que ces mésanges, elles sont là quand même que à une certaine période de l'année, on a dit, nous on accepte qu'on les coupe, mais on les replante, et vous les transportez à vos frais, vous les élaguez, et donc c'est ce qui s'est fait ici, et on va les replanter donc, pour qu'ils servent de nouveau à des espèces cavernicoles. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que dépenser de l'énergie, de l'argent pour faire des passages pour la petite faune sous les voiries, c'est un gaspillage. Alors moi, je leur ferais remarquer que, d'une part, ça rend service aux agriculteurs, aux jardiniers, etc. Ça fait plaisir aux chasseurs et aux pêcheurs. Et puis, ça évite des accidents routiers. Ça fait marcher des bureaux d'études. Ça fait marcher des entreprises de BTP. Bon, faire passer sous une voirie un double tuyau pour que les animaux puissent passer, c'est pas grand-chose. Ça coûte même pas un demi-rond-point. Je pense que il faut quand même ramener un peu de raison dans ces affaires. Et souvent, on se fait moquer. Mais de moins en moins, et il y a de plus en plus de gens qui nous suivent, qui prennent plaisir à venir voir ce qu'on fait et qui viennent apprendre les amphibiens, les crapauds, les grenouilles.
Qu'est-ce qui vous éclate, vous tous ?
Donc, on apprend plein de choses parce que c'est vrai qu'on suit un petit peu Jean-François. Et puis, alors, entre les crapauds, d'apprendre justement voilà, toutes les espèces, les variétés. Et puis, il y a voilà, les oiseaux.
C'est-à-dire qu'on vous sent bien, toutes et tous, quand vous êtes là ici.
Ah oui, c'est vraiment la bulle du matin essentielle. Là. On fait le plein de nature. En plus, on a l'impression d'agir pour nos copains les animaux tous les matins, donc c'est sympa de faire taxi. Moi, j'adore. Et puis, apprendre à les reconnaître. C'est vraiment apprendre à connaître l'environnement et être en lien avec. Et c'est plein d'émerveillement le matin. C'est chouette.
Bon, Lyotte, j'ai envie qu'on se dise au revoir.
Au revoir, Denis, les auditeurs.
Merci, Elliot. Salut.
Au revoir, bonne journée.
Alors, on vous attend, vous aussi, avec vos sons. Vous verrez, c'est très agréable. On peut remercier vraiment toutes les associations de France, pas seulement le Pivert, et donc tous les bénévoles qui travaillent pour cela. Et merci, bien sûr, aussi à Jean-François Noblet. Sans oublier, au mixage, Julien Dumont.
Alors, Margot, tu arrêtes avec la glade, là. Profite un petit peu, regarde un peu la nature, là, les moutons, les trucs.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Mais le voyage en pays batracien n'est pas terminé, car qu'est-ce que je vois là, là, au sein de France Bleu Gironde? Je vois une petite mare, et à côté de la mare, il y a qui? Il y a Christophe Coïc, qui est le directeur de Sistud Nature. Bonjour Christophe.
Bonjour Denis.
Alors vous écoutiez Jean-François Noblet. Dites-moi, il y a une petite anecdote très intéressante qui se passait au 19e siècle.
Hein. Il y avait un scientifique du 19e. Alors le crapaud, comme Jean-François Noblet l'a dit, hein, il y a une succession de trans accouplements vis-à-vis de la femelle. Tous les mâles peuvent se retrouver à plusieurs sur la même femelle. Et le scientifique au 19e met la pointe de son soulier dans l'eau au bord de la mare et il y a une succession de crapauds qui commencent à tenter de s'accoupler avec sa chaussure. Et il dit, il finit dans le bouquin, il continue là son triste ouvrage.
Alors peut-être
et ça m'a beaucoup fait rire.
Ah, c'est joli tout plat. Christophe, peut-être aussi chassons une idée reçue. Les amphibiens, beaucoup de personnes imaginent que ça vit dans l'eau tout le temps.
Non, les amphibiens ne vivent pas dans l'eau tout le temps. Il n'y a que la grenouille verte, le genre Pélophylax. Toutes les grenouilles vertes, oui, sont plus ou moins proches de l'eau. Sinon, les amphibiens ont besoin de l'eau de zones humides, plus ou moins profondes d'ailleurs, pour s'accoupler, mais dans un temps précis de leur vie annuelle.
Alors parlons quand même maintenant donc, de l'état des lieux. On attaque les choses qui fâchent. Donc, on a parlé donc un petit peu des causes, mais où en est-on chez les batraciens aujourd'hui chez nous?
Bon, on est hyper mal, comme l'ensemble de la biodiversité. Des espèces comme les deux espèces de crapauds, crapaud commun, crapaud épineux, des espèces ultra communes qu'on avait même aux abords des villes et villages. Moi, je me rappelle gamin, bon voilà, le crapaud, c'était dans les jardins, c'était un peu partout. On s'aperçoit qu'il y a des baisses considérables d'effectifs. Et que dire des espèces qui sont beaucoup plus rares, type le Pélobate cutripède, qui est un petit crapaud, le crapaud des dunes, le crapaud à couteau qui s'enterre dans le sol.
Alors Christophe Coïc, maintenant donc parlons de ces ouvrages, parce qu'on voit que c'est toujours un peu compliqué, ces fameuses routes, donc ces différentes césures qui existent. D'abord, on a les grands ouvrages. La biodiversité, on va dire, est prise en compte quand on fabrique de nouveaux ouvrages.
Quand on a un gros ouvrage type autoroute ou LGV, on a déjà une prise en compte par les associations, il y a un gros mouvement qui se dégage. Donc il y a une prise en compte quand même des passages petite faune, mésofaune. Donc il y a quand même pas mal de choses prises en compte et ça fonctionne très très bien. On sait faire pour les vertébrés. Par contre, les routes existantes départementales et autres, alors là c'est une catastrophe, puisqu'on a un développement. On voit en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, avec la métropole de Bayonne, la métropole de Bordeaux, qui s'étendent, qui grignotent des terres agricoles, donc des zones naturelles. Et on a des routes qui sont de plus en plus fréquentées. Et là, les amphibiens trinquent pas mal.
Qu'est-ce que l'on peut faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui est maître d'œuvre de la ferche? Parce qu'on a l'État, on a la région, on a les départements, on a les communautés de communes. C'est la biodiversité, où est-elle?
Bah, on a le millefeuille administratif, hein, classique, c'est-à-dire qui fait quoi? On a l'État, la région, etc., département, métropole, et qui est à la manœuvre? Qui fait quoi? Nous, ce qu'on demande, et c'est la majorité des mouvements associatifs dans ce pays qui le demandent, c'est que la biodiversité, une bonne fois pour toutes, soit transversale. C'est-à-dire le moindre projet, la moindre réflexion sur un ouvrage quel qu'il soit, il y ait une prise en compte au début de la biodiversité. On a trop souvent des déviations, il y en a une à côté du Taillan, près de chez nous, qui se met en place, qui au passage détruit de la biodiversité. Il n'y a pas cette prise en compte-là. Il faut à tout prix, prendre en compte cette biodiversité, qu'elle soit ordinaire, protégée ou non, à l'amorce de l'ouvrage. Et qui fait quoi ? On a la région qui a des prérogatives, on a les départements qui ont les prérogatives.
Alors, les régions aussi. Avec aussi maintenant les agences régionales de biodiversité. Toutes les régions n'en ont pas encore, mais elles sont en cours de création. Et peut-être qu'un des travaux d'une président de l'OFB, à savoir Thierry Burlot, qui a été nommé tout à fait récemment, de l'Office français de la biodiversité, ce sera peut-être aussi d'aider à coordonner peut-être un peu tout ça.
Oui, d'aider à coordonner, enfin une petit bémol pour l'OFB, c'est-à-dire que, ben, comme tout service public, les effectifs, il y a plus de départs de la retraite que de recrutement. Donc, en gros, nous, c'est ce qu'on a souhaité, hein, une police de la nature, de l'environnement. Encore faut-il qu'il y ait des agents sur le terrain et des agents formés.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a demandé à des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'être compétents maintenant sur l'ensemble de la biodiversité. Encore faut-il qu'on sache reconnaître un peu les espèces. Ça, c'est... ils sont très compétents, mais qu'il y ait des effectifs qui soient pris en compte. Et hélas...
Qu'est-ce que l'on peut espérer, en fait, pour ces batraciens ?
C'est vraiment... Alors, déjà, la note positive, c'est qu'il y a une prise en compte du public. Là, sur la commune d'Ivrate, mais il y a un mois, on a été contacté par des riverains qui disaient « Il y a des crapauds qui traversent la route, ils se font écraser. » On a mis en place les seaux, les bâches, les grillages, et hop, ça marche. Ça, ce sont des solutions provisoires. Voilà. Ça ne dure pas de 2-3 ans. Il faut à tout prix, après, c'est le travail de la mairie, un ouvrage... Muret, on sait très bien que sur quelques centaines de mètres, il y a le gros de la population des amphibiens qui vont traverser. Et il faut que les services du département ou des métropoles mettent en place les murets, les passages qui vont bien, et on n'en parle plus. C'est très simple. Encore faut-il investir un peu d'argent là-dessus.
Et puis, si vous souhaitez vraiment vous faire du bien, il y a ce festival Territoire Sauvage du 10 au 13 avril que vous organisez. Donc là, on est au Teche, donc on est près d'Arcachon, sur une réserve qui est superbe. Et en plus, le thème rejoint totalement nos batraciens, parce qu'il s'agit d'un thème, vous avez baptisé ça, Nocturne. Merci à vous, Christophe Coïc.
À bientôt, Denis.
Et le dernier mot, en fait, la dernière citation de l'émission, Jacques Bonafé.
Il ne sert à rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la terre. François Mauriac.
Merci à Nicolas Delmas à la technique, à Camille Blanès, à Jérôme Boulet qui a réalisé l'émission. La semaine prochaine, ce sera du Paris, mais du Paris sauvage avec la Seine, les renards et les moineaux. L'atelier Mon Petit Loup, on se retrouvera donc ce soir à 19h54. Le Twitter, notez bien, c'est Denis Chessou, tout attaché. Je vous souhaite un très bon dimanche.